Pour la troisième fois cette saison, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev vont croiser le fer, cette fois-ci aux ATP Finals. D'un côté, on a l'Espagnol qui est en perte de vitesse depuis son sacre à Wimbledon, et de l'autre, un Allemand qui retrouve un bon niveau de jeu moyen depuis sa demi-finale à Roland-Garros perdue contre Casper Ruud, même s'il y a quelques inconstances. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'Alexander Zverev, pour une fois, il ne sera pas émoussé, il n'aura pas encore eu l'occasion de disputer un énorme combat en 5 heures contre Daniil Medvedev, où il arrivera un petit peu sur les rotules. Là, il est frais, il adore ses conditions, il s'est imposé deux fois aux ATP Finals en 2018 et 2021. Alors, est-ce que Carlitos, qui est un petit peu victime du syndrome Nadal en fin de saison, va faire une troisième défaite de suite, ou est-ce qu'il va être capable de se remobiliser pour sa première participation au Masters? Personnellement, je vois une victoire poussive de Carlitos en 3-7 contre Alexander Zverev. Je t'en dis pas plus et je t'explique pourquoi après le jingle. Si on revient un petit peu sur la saison 2023 de Carlos Alcaraz, on constate qu'il y a deux saisons dans une. Il y a ce premier semestre totalement immaculé jusqu'à son sacre à Wimbledon en finale en 5-7 contre Novak Djokovic. 47 victoires, 4 défaites et 5 autres titres, dont 2 Masters 1000. Et ensuite, la faute à un titre en Grand Chelem qu'il n'a pas su digérer, où il est reparti trop rapidement au charbon. On sait qu'après son sacre à l'US Open l'an dernier, il était blessé, il avait pu se reposer, sachant qu'il n'avait pas pu jouer toute la fin de saison, et derrière il revient qu'en février, donc il aura eu le temps de refaire du jus, ce qui n'a pas été le cas ici. Il a directement enchaîné avec la Open Cup, grave erreur, sachant qu'on voit un Carlos Alcaraz qui accuse un petit peu le coup physiquement, mentalement, et en témoignent ses chiffres, 16 victoires, 6 défaites, et dans le premier semestre vraiment c'était un événement, une défaite de Carlitos sur dur, où il avait perdu seulement contre Yannick Sinner à Miami, et là c'est devenu un petit peu monnaie courante de voir l'Espagnol fléchir sur cette surface. Je te parlais de fatigue mentale, de fatigue physique, comment ça se traduit un petit peu dans son jeu? Justement on a un Carlos Alcaraz qui manque de patience, qui n'est plus créatif, qui est vraiment muselé par ses adversaires, sa créativité n'arrive plus du tout à s'exprimer, ce qui fait qu'on a un Alcaraz qui repart un petit peu dans ses travers, à juste frapper fort dans la balle en espérant que ça passe. Souvent, ça sort énormément et il n'arrive plus vraiment à imposer son propre rythme, ses propres règles. C'est finalement ses adversaires qui le contraignent à jouer comme ça, et c'est un petit peu dommage parce qu'on sait que c'est un joueur ultra créatif, et là on a vraiment un Carlos Alcaraz qui sert juste à frapper fort dans la balle, qui va commettre énormément de fautes directes, et c'est pas sur quoi il nous avait habitué dans ce premier semestre. Si on va un petit peu plus loin, on constate également une baisse au service, sachant que sur le premier semestre c'est quand même 75% de points gagnés derrière sa première balle. Là il est passé à 69%, et surtout à la relance où il est beaucoup moins réaliste, 48% de break converti dans le premier semestre pour seulement 31%. Là on se rappelle notamment de ce match contre Yannick Sinner à Pékin, où il n'arrivait pas du tout à capitaliser sur les occasions qu'il avait, et donc tout ça, ça accuse un petit peu le coup. Voilà, quelqu'un qui est un petit peu moins frais, moins disposé mentalement, qui arrive moins à saisir ses opportunités, tout est lié, et c'est pourquoi je pense que l'intersaison va lui faire le plus grand bien, et qu'il va vraiment devoir capitaliser sur cette saison 2023 avec Juan Carlos pour apprendre à mieux gérer son calendrier, parce que là il est vraiment victime du syndrome Nadal, à démarrer très fort là sur le premier semestre, à être à fond jusqu'à Wimbledon, et après commencer petit à petit à décliner et à finir finalement sur les rotules, alors que tout se passait bien pour lui, tout se passait au mieux. Certes, il est jeune, il n'a pas encore l'âge pour profiter un petit peu d'un calendrier aménagé comme Novak Djokovic, il n'a pas encore toute cette expérience, mais je pense qu'il devrait vraiment s'appuyer sur cette saison pour mieux choisir ces événements, et notamment après un sacre grand chelem, de prendre plus le temps de digérer, de se poser, de refaire un petit peu de jus pour revenir encore plus fort. Après, au-delà de ça, peut-être que le tournant c'est cette finale à Cincinnati, où il fait pas un excellent tournoi à Cincinnati, mais il arrive à retrouver vraiment des couleurs contre Novak Djokovic en finale. Il aurait pu battre coup sur coup le Serbe, où ça aurait peut-être bouché un petit peu le Joker, et Alcaraz ça l'aurait un peu relancé sur cette fin de saison. Là ça n'a pas été le cas, ça a été un gros coup d'arrêt pour lui, et derrière c'est beaucoup plus compliqué, sachant que là c'est sa première fois au Masters, il n'avait pas pu participer en 2022. La place de numéro 1 mondial s'est quasiment envolée. Si Djokovic s'impose contre Holger Rune, c'est fini, il n'a plus forcément les cartes en main. Et surtout, sur ses 5 derniers matchs, c'est quand même 3 défaites. Donc c'est assez inquiétant par rapport au standard auquel il nous avait habitués. Mais bon, ça s'explique par rapport à son état de fraîcheur général. Et pour moi, il doit impérativement retrouver ce qui faisait sa force, la construction d'un point, la créativité, la patience. On sait que c'est un joueur qui peut très bien varier avec du slice, des amortis, des montées au filet. Il avait énormément progressé à la relance et au service à Wimbledon, et derrière il a cette puissance du fond naturel pour déloger un petit peu de leur zone de confort ses adversaires. Mais voilà, c'est une triptyque pour lui, il faut qu'il y ait tous ces ingrédients qui soient là pour que le puzzle soit parfait. Là c'est beaucoup trop pas complet, et finalement il surjoue et il va trop rapidement à la faute. Avant de passer à Alexander Zverev, est-ce que ça te dirait de générer des revenus passifs? C'est justement le but du sponsor de cette vidéo, Royalties. J'imagine que tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois en achetant des actions. Et en fonction de leur performance, tu vas améliorer tes rendements. Royalties, c'est la même chose. Tu ne vas pas investir dans des entreprises, mais dans des talents. Donc tu as différents sports qui sont représentés, ça c'est chouette pour diversifier ton portefeuille. Là, bien évidemment, on va s'intéresser au tennis. Tu retrouves du Daniil Medvedev, du Casper Ruud, du Nick Kyrgios, du Noskova, du Caro Garcia et bien d'autres. Je te laisserai aller voir tout ça. Tu vas acquérir un ROI. Donc un ROI, c'est l'équivalent d'une action. En moyenne, le ROI de départ est à 2 euros. Ça peut être un petit peu plus élevé en fonction du succès, du talent. Et en fonction des performances du joueur sur le terrain, mais également en dehors, par exemple sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme qui te calcule tout ça. Et derrière, ça va te faire fructifier ton investissement initial sur ce joueur et chaque mois tu as une retombée, donc tu es embarqué dans l'aventure d'un joueur et en fonction de ses performances, justement tu vas avoir une retombée directe dans ton portefeuille par rapport à ce qu'il produit sur un terrain. Donc ça c'est vachement intéressant. Bien évidemment, c'est une activité responsable. Quand on parle d'investissement, n'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Je te laisse un lien d'affiliation dans les commentaires et dans les descriptions si tu veux tenter l'expérience. Donc une fois que tu es inscrit, tu fais ta première transaction et derrière tu as accès à un bonus. Donc ce bonus, ça peut être un talent, de l'argent ou des cadeaux comme des AirPods Pro. Si on revient à notre affiche et si on parle un petit peu d'Alexander Zverev, lui aussi il a eu 2 saisons dans une saison. En effet, on sait qu'il était sorti en béquille à Roland Garros 2022 en demi-finale contre Rafael Nadal dans un match très compliqué avec des conditions un petit peu complexes où ce n'était pas fait pour l'un ou pour l'autre joueur. Il aura fallu attendre un an pour qu'il retrouve vraiment un bon niveau de jeu moyen, sachant qu'il a fait cette rééducation, il est revenu en début d'année 2023. Jusqu'à Roland Garros, ses statistiques sont pas folles, 15 victoires, 13 défaites, et à l'entame de Roland Garros jusqu'à maintenant, c'est 38 victoires pour 13 défaites, donc 2 titres à Hambourg et Chengdu. Donc c'est un joueur qui a su petit à petit s'accrocher, se remettre. On sait que c'est pas évident quand tu t'appelles pas Djokovic, Federer ou Nadal de revenir. Demande à Dominic Thiem, Alexander Zverev sur un semestre ce qu'il a su faire. D'ailleurs, se qualifier pour les ATP Finals, c'est quand même très très fort par rapport à son niveau de jeu, ses armes qu'il a dans son jeu. Par contre, on est encore loin du grand Alexander Zverev. Pour moi, il manque de constance, de régularité. Il est capable au premier tour de Toronto de marquer seulement 3 jeux contre Davidovich Fokina et la semaine d'après à Cincinnati d'aller en demi-finale contre Novak Djokovic. Donc vraiment un joueur irrégulier qui a des hauts, qui a des bas, qui va s'entraîner aussi des fois dans des longs matchs. On se rappelle de ce match contre Hugo Humbert, dû aussi à sa passivité. On sait que c'est un peu le péché mignon de Alexander Zverev de rester du fond, de manquer un petit peu d'agressivité et de jouer pendant des heures, notamment côté coup droit où c'est un petit peu faiblard, là où sa grande force c'est son revers. Après, au niveau de son service, on va dire qu'il a un bon service. Peut-être pas celui des grandes années, même s'il fait beaucoup moins de double fautes. C'est l'année où il a fait le moins de double fautes, quand même, rends-toi bien compte. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour lui. Il a eu des bonnes performances dans l'année, quelques matchs par-ci par-là, notamment cette demi-finale à Roland-Garros, où il s'incline contre Casper Ruud. Mais ça a été très solide sur certaines séquences. Après, on attend de voir 2024 pour voir peut-être une performance, une copie beaucoup plus constante de la part de l'Allemand, sachant qu'au niveau de ses points faibles, c'est toujours ce coup droit où il manque d'agressivité, il n'arrive pas à faire le point, il fait un petit peu des ronds avec son coup droit, là où côté revers, c'est beaucoup plus propre, frappé à plat, très tendu, où il fait mal à ses adversaires, et le service où il peut encore passer un petit cap pour retrouver de très bonnes sensations et être beaucoup plus percutant sur sa première balle. Après les ATP Finals, il adore ça, il a été lauréat en 2018 et 2021 à Londres et à Turin, à chaque fois il a battu Novak Djokovic, c'est des conditions qui lui vont à merveille, notamment pour son style de jeu. Là, je pense que ça risque d'être un petit peu trop juste sur l'ensemble de cette semaine, et que il faudra plus compter sur lui sur 2024, mais il peut nous surprendre, notamment sur ses premiers matchs où il est frais, il n'a pas encore eu le temps de puiser dans ses réserves, et il va pouvoir enclencher directement la première, où derrière ça peut être un petit peu plus compliqué, où il peut avoir tendance à s'essouffler. Au fait, nous c'est Game Stand Talk, qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune, et sache que ce genre d'analyse, ce genre de preview, d'une grosse affiche popcorn, c'est un peu le cœur, l'ADN de notre chaîne YouTube, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te parle, n'hésite pas à prendre ta raquette et à smasher le bouton pour t'abonner. Si cette vidéo t'apporte de la valeur, je t'invite d'ailleurs à la liker, parce que tu connais YouTube, c'est ce qui nous permet derrière de savoir les vidéos qui marchent le mieux et de les recommander à un public aussi qui est friand de ce genre d'analyse. D'ailleurs, durant toute cette semaine au Masters et même tout au long de l'année, on a un Discord où on échange de façon quotidienne pour commenter les matchs. Je te mets tous les liens en description et je t'invite à le rejoindre pour qu'on puisse parler de façon plus régulière que juste sous les commentaires d'une vidéo. D'un point de vue tactique, il y a 3 partout entre les deux hommes, mais Zverev ne s'est plus imposé contre l'Espagnol depuis Roland Garros 2022, et ce quart de finale un petit peu inattendu, on voyait Carlitos prendre le meilleur sur l'Allemand. Derrière, l'Espagnol s'est imposé 2 fois cette saison sur terre battue, puis à l'US Open, où Alexander Zverev revenait d'un gros marathon contre Yannick Sinner. Ça avait été compliqué, même s'il y avait eu un premier set un petit peu accroché où l'Allemand a quelques opportunités, mais derrière il va commencer à décliner et flancher physiquement. Donc c'est toujours intéressant de voir ce que les deux joueurs peuvent mettre en place pour faire déjouer l'autre. Donc côté Alexander Zverev, il va devoir être percutant sur sa première balle, avoir un maximum de points gratuits. Après, côté revers, on sait que c'est sa force. Il peut dominer cette diagonale, notamment avec ses revers court croisés qui permettent de sortir Carlos Alcaraz. Après, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu l'as sorti? Généralement, il faut attaquer longue ligne avec ton revers parce qu'on sait que Alcaraz, il a ce petit défaut sur ses bouts de course côté coup droit, aller un petit peu trop rapidement à la faute, ça va prendre un petit peu trop de risques, d'autant plus avec ce Carlos Alcaraz un petit peu émoussé en manque de créativité. Donc c'est vraiment un schéma payant pour l'Allemand. Après, côté coup droit, il va devoir faire des efforts, il va devoir sortir de sa zone de confort, agresser Carlitos. On sait qu'il n'apprécie pas ça du tout quand on l'agresse des deux côtés, quand on le sort de sa zone de confort, quand on le fait reculer, justement, parce que ça empêche un peu sa créativité, sa muselle, justement, ses amortis, ses montées au filet, etc. C'est son adversaire qui allait devant. Donc, il va devoir se faire violence, l'Allemand. On sait que c'est pas son coup fort, mais il va devoir prendre des risques sur cette diagonale parce qu'on sait que son adversaire va l'entraîner dedans. Après, au retour aussi, essayer de ne pas être trop passif, de ne pas juste remettre la balle en jeu, mais d'aller un peu plus fort, de l'agresser. Il avait très bien fait à Tokyo contre Djokovic, Alexander Zverev. Là, bon, c'est plus forcément le même Allemand. Mais voilà, de prendre un petit peu des risques sur sa ligne à la relance, ça peut être très intéressant et faire des retours plus sains. Côté Carlos Alcaraz, il va devoir retrouver ce qu'il faisait de sa superbe. Alcaraz, on va pas se le cacher, c'est-à-dire être patient, voilà, faire craquer son adversaire, l'emmener dans des longs rallyes, faire preuve de créativité, monter au filet, les amortis, le slice notamment côté revers pour justement se décaler par rapport à cette diagonale où Alexander Zverev va essayer de l'emmener dans cette diagonale revers. Le slice, c'est parfait. Justement, tu ralentis un peu le rythme, tu donnes une balle basse à Alexander Zverev pour qu'il se baisse sur ses grandes jambes. C'est compliqué pour lui derrière le revers. Ensuite, Alcaraz peut se décaler et attaquer côté coup droit sur le coup droit de son adversaire. Il va devoir également dominer cette diagonale coup droit. On sait que c'est le point faible de l'Allemand. Il manque d'agressivité derrière, donc il peut gagner du terrain avec ce coup droit, son service. Il va devoir bien servir. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je pense que ça va être un match intéressant vu que c'est le premier des deux joueurs dans ce Masters. Donc ça va permettre de les jauger un petit peu leur état de forme, voir ce qu'il en est. Au niveau du scénario et du pronostic, comme je te le disais en introduction, je vois une victoire de Carlos Alcaraz en 3-7. Un match assez poussif avec des hauts et des bas, mais vraiment un Espagnol qui va s'appliquer pour sa première participation au Masters, qui va tout faire un petit peu pour aller chercher cette victoire à la Grinta, qui derrière pourrait en payer le prix cher sur les deux matchs qui lui resteraient. Mais vraiment un gros combat en 3-7 où tout ne sera pas forcément au vert pour les deux joueurs, mais à la fin, voilà, c'est l'Espagnol qui gravit cette ligne d'arrivée dans un gros match avec encore une fois des petites défaillances comme on a pu le voir sur ce second semestre, mais qui s'en sort, qui s'accroche mentalement, et une victoire qui peut lui faire du bien. Donc Carlos Alcaraz en 3-7 pour moi. D'ailleurs, si tu veux patienter jusqu'à cette affiche, je t'invite à aller voir cette vidéo. On revient un petit peu sur l'analyse des 8 qualifiés aux ATP Finals ainsi que le tirage au sort pour savoir un petit peu ce que j'en pense, comment je vois le scénario de cette semaine. Et nous, on se retrouve très rapidement d'ici là. Porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.